RCF.
Mœurs décadentes, invasion barbare et division, voilà généralement les seules causes invoquées pour expliquer la chute de Rome, que l'on situe généralement en 476, date de l'abdication du dernier empereur de l'Empire romain d'Occident. Car il faut bien expliquer comment un empire ayant dominé une grande partie du monde antique pendant près de 500 ans a pu s'effondrer en quelques décennies. Eh bien, à en croire l'historien américain Kyle Harper, professeur à l'université d'Oklahoma aux USA, les explications sont à chercher aussi et surtout du côté du climat et des épidémies. La version française de son dernier livre paraît aux éditions de La Découverte. Elle s'intitule « Comment l'Empire romain s'est effondré ». Et vous avez préfacé cette version française, Benoît Rossignol, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférences en histoire, civilisation, archéologie et art des mondes anciens et médiévaux à l'université Paris 1,
oui,
Panthéon-Sorbonne. Alors oui. J'aimerais commencer par vous demander si la thèse de Kyle Harper est une véritable révolution dans l'interprétation des événements qui ont conduit à la chute de l'Empire romain.
Pas totalement, au sens où ça n'est pas un coup de tonnerre dans un ciel complètement bleu, c'est la première synthèse, mais beaucoup des éléments qu'il mobilise sont dans la littérature scientifique depuis déjà quelques années, parfois un peu plus longtemps pour d'autres. Mais c'est la première fois qu'on les synthétise comme cela et qu'on en donne une version complète et facilement accessible en dehors des
sphères scientifiques.
Des écrits très, voilà, ouais, très, très scientifiques et parfois un peu plus obscurs.
Donc en fait, ce qu'il développe là, c'est la concordance d'événements et de facteurs qui expliquent la chute de l'Empire romain d'Occident.
Oui, qui sont des éléments extrêmement problématiques pour un empire qui épuise petit à petit ses capacités de résilience. Il n'y a pas un événement qui pousse et qui détruit, c'est un processus dans lequel des événements longtemps négligés, climatiques et épidémiologiques, ont joué leur rôle.
Mais ça veut dire donc que les causes que je citais au tout début de cet entretien, à savoir les fameuses mœurs décadentes romaines et puis surtout les poussées des barbares, ne sont pas complètement écartées.
Alors, les mœurs décadentes, c'est difficile à définir au sens où quand on pense à la décadence romaine, on imagine en fait des choses qui se situent quand l'Empire est à son apogée. C'est-à-dire on voit les orgies, on voit le pain et le cirque, etc. L'Empire qui s'effondre est beaucoup plus solide du point de vue de son rapport à certaines pratiques, au sens où on n'a plus les extravagances de certains empereurs qui, en fait, testent la fonction d'empereur. Les empereurs sont des gens qui connaissent le métier d'empereur, parce que ça fait désormais des siècles qu'on le pratique. L'Empire s'est christianisé aussi, et en fait, une morale familiale, personnelle, corporelle, assez sévère s'est imposée. Et elle était même en route avant la christianisation dans des pensées comme le stoïcisme, par exemple. Donc, la question des mœurs, il faut la prendre avec la juste mesure. En revanche, il y a des problèmes politiques. On pourrait dire que la question des mœurs, on pourrait la traiter du point de vue politique, au sens où la cour romaine, en particulier dans l'Empire d'Occident, la cour qui n'est pas à Rome, mais qui est à Ravenne, est un milieu extrêmement terrible et sans scrupules. Ça, il faut le dire.
C'est-à-dire avec des assassinats, avec des
disparitions. Oui, on n'hésite pas à pratiquer la purge politique de manière extrêmement sauvage, la trahison est de règles. Enfin, c'est un univers politique extrêmement rude. Et ce que nous appellerions la corruption est aussi une règle dans cet empire.
La suite de l'histoire.
En ce qui concerne les invasions barbares, donc.
Alors là, il y a une vraie menace, au sens où il faut la remettre aussi dans sa bonne chronologie, son bon contexte. L'Empire a toujours eu à défendre ses frontières, mais les menaces sur les frontières changent à la fin du IVe siècle. Et au Ve siècle, très clairement, l'Empire perd les moyens de s'opposer à ses voisins. Et l'invasion, donc, constitue traditionnellement au 31 décembre 406 de la Gaule par les Vandales, les Alains, les Suèves, est un coup extrêmement dur et entraîne la perte progressive de territoire et l'affaiblissement de l'Empire.
Donc on va voir que tous ces facteurs, articulés à ceux que Kyle Harper et puis vous-même défendez, du coup, à savoir les problèmes liés au climat et aux épidémies, vont expliquer cette lente, ou d'ailleurs, je ne sais pas, est-ce qu'on peut considérer que c'est lent ou que c'est finalement assez rapide, cet effondrement ?
Ben, c'est par paliers.
Il y a des étapes.
Des étapes, effectivement. Il y a des moments aussi de résilience. Il ne faut pas imaginer un déclin continu où on se serait affaibli petit à petit. Il y a des moments où il y a des chocs brutaux, des récupérations mais qui sont jamais complètes, et puis des moments d'effondrement qu'on peut dater assez précisément
et
où ça peut aller très vite. Oui. Et on ne récupère pas derrière. Oui.
Est-ce qu'il faut faire un distinguo entre l'Empire d'Orient et l'Empire d'Occident quand on parle de chute de l'Empire romain ? On dit traditionnellement que c'est l'Empire romain d'Occident qui s'effondre.
Oui, l'Empire d'Orient a un destin qui se sépare petit à petit à partir du règne de Théodose. On voit la séparation désormais actée dans le fait qu'il y a deux empereurs clairement séparés, désormais l'un à Ravenne, qui n'est plus à Rome mais qui reste en Italie, et l'autre à Constantinople. Et puis ces destins se séparent de plus en plus et malheureusement, finalement, ces empires sont parfois tentés de jouer l'un contre l'autre. L'Empire d'Orient est tenté de pousser les Huns sur son voisin d'Occident, et le voisin d'Occident avait tenté aussi d'envoyer les Goths sur son voisin d'Orient par moment. Donc ils ne se sont pas forcément aidés autant qu'ils l'auraient pu. Et l'Empire d'Orient a eu une résistance bien plus forte, a été capable de résister à ces troubles du 5e siècle. Mmh. Reste que Kyle Harper va plus loin, il montre que les chocs du 6e siècle, en fait, des années 530-550, affaiblissent considérablement cet Empire d'Orient aussi. Il n'est quand même plus le même quand on est à la fin du 6e siècle.
Alors justement, puisque vous parlez de date, est-ce qu'on peut redonner un peu la chronologie des événements qu'on va retracer et ce processus que vous avez commencé à décrire ?
Il faut d'abord rappeler que l'Empire romain, c'est un très vieux monsieur. Hein, c'est les Romains de la République qui ont commencé à conquérir la Méditerranée, qui en avaient conquis déjà la plus grande partie à l'époque du Jules César, donc vers 50 avant notre ère. Puis cet empire devient un véritable empire au sens où nous l'entendons avec un empereur qui est Auguste, au moment justement du tournant de notre ère, entre 27 avant Jésus-Christ et puis 14 après. Et les difficultés arrivent dans le milieu du 2e siècle. C'est à peu près le moment où Kyle Harper commence son livre. On a l'impression que tout va bien, mais où justement les choses vont se gâter, ce qu'on appelle l'époque antonine, le règne de Marc Aurèle. Puis il y a des difficultés plus grandes encore au milieu du 3e siècle, correspond à une seconde épidémie, à des invasions barbares, à des guerres civiles, à des pertes de contrôle politique, donc plutôt vers 249. Et puis il y a le moment où les invasions aux frontières commencent à devenir de plus en plus dangereuses, avec notamment la pression des Goths dans les années 380. Le cœur du 5e siècle, donc on a vu avec les Vandales, les Suèves dans les années 400.
Et puis le coup de grâce.
Et le coup de grâce. Disons qu'à partir des années 400-410, effectivement, le contrôle se perd progressivement et ça s'étend jusqu'en 476 où effectivement un chef barbare, Odoacre, décide qu'en Occident on n'a plus besoin d'un empereur et
dépose.
On se contentera d'avoir celui d'Orient qui est très loin. Et ça tombe bien puisqu'on ne veut plus trop lui obéir. Si on reste en Occident, on est dans cette chronologie, mais Kyle Harper pousse plus loin puisqu'il s'occupe du 6e siècle et de l'Orient. En Orient, dans les années 530, on a un empereur extrêmement déterminé, Justinien, qui a un très long règne, qui tente en fait la reconquête de l'Occident, qui tente la reconstruction de l'Empire, mais qui se heurte à une conjoncture climatique et épidémiologique qui va bousculer ses projets. Et s'il arrive à reprendre par exemple l'Afrique du Nord aux Vandales, Il n'arrive pas à retisser les éléments de l'Empire, il n'arrive pas à reconstruire une unité, et en fait, la peste ravage tout ce qu'il avait pu gagner.
Donc, on se situe sur une période globale de...
Le livre commence donc vers Marc Aurèle, vers 165, et se termine dans les années 600 à peu près.
Donc 5 siècles à peu près.
On est sur 5 siècles, oui, à peu près.
Pour les deux empires.
Pour les deux empires.
C'est les deux pôles de cet empire romain, oui. Qui, donc vous le soulignez, connaît un déclin avec des étapes.
Étapes et des paliers. En sachant que finalement, il n'y a pas de nécessité forcée d'un palier à un autre. Le palier précédent met en place des éléments de fragilité sur lesquels le suivant va agir, mais ce n'est pas une causalité qui se déroulerait comme un plan bien ordonné. Il y a des causes assez multiples qui interviennent chacune à leur moment et parfois se renforcent de manière à avoir des éléments de perte, de destruction irrécupérables.
Benoît Rossignol, en quatrième de couverture du livre de Kyle Harper, « Comment l'Empire romain s'est effondré », on lit des chiffres assez marquants. La phrase de ce texte qui dit « Comment Rome est-elle passée d'un million d'habitants à 20 000, à peine de quoi remplir un angle du Colisée ?» C'est vrai que cette diminution évidente du nombre d'habitants peut même apparaître comme assez catastrophique.
Oui, on a vraiment l'impression d'un effondrement avec des moments absolument terribles. Alors on passe d'un million à 20 000 sur la période des siècles qui vont de Marc Aurèle jusqu'à Justinien, donc du 2e au 6e. Mais il y a une perte et il y a des moments où cette perte se fait brutalement par des événements traumatiques, comme la peste et comme cette peste au 5e siècle qui effectivement... à des taux de mortalité qui nous semblent inimaginables.
On y reviendra. Voilà. Ce phénomène d'une population qui diminue dans des proportions incroyables, c'est pas très bon signe, de toute façon.
Non, c'est aussi le signe que une complexité s'est perdue. C'est-à-dire, si on peut nourrir une ville d'un million d'habitants sans avoir une agriculture avec les moyens dont nous disposons, motorisés, avec des engrais, c'est qu'il y a une machinerie impérial qui est capable d'aller chercher du blé en Égypte, qui est capable d'entretenir des flottes, suffisamment d'esclaves pour distribuer le blé, pour des fonctionnaires pour le comté, pour évaluer la plèbe de Rome. Et tout ça, évidemment, se perd. C'est parce qu'on l'a perdu que Rome devient une ville comme une autre.
Vous faites le lien tout de suite avec la cause alimentaire. Et donc, est-ce qu'il faut pousser un peu plus loin et en venir à la question du climat ?
Oui. Au sens où les agricultures prémodernes, d'avant le XVIIIe siècle, dépendent massivement, beaucoup plus qu'à notre époque, elles dépendent encore, mais beaucoup plus auparavant des événements climatiques, des aléas climatiques, et puis de la structure même parfois du climat. Et des variations d'une année peuvent être rattrapées, parce qu'on fait des stocks, on a des greniers. Mais si on a des variations qui... deviennent durables ou qui se répètent sur un certain nombre d'années, tous les petits mécanismes pour faire face aux variations sont épuisés et la disette d'abord, puis la famine s'installe et c'est extrêmement coûteux pour les populations et les sociétés.
Sur quel équilibre reposait l'alimentation de l'Empire romain et en particulier plus exactement les cultures, ce qui permettait de nourrir la population ?
Alors, on repose avant tout sur les céréales, mais l'Empire est avant tout méditerranéen, donc il a aussi des capacités à mobiliser les autres éléments de ce qu'on appelle un peu la triade méditerranéenne, c'est-à-dire l'olive et le raisin, à travers l'huile d'olive et puis le vin. Ce sont surtout les céréales qui nourrissent les gens et qui effectivement sont très dépendantes d'une certaine stabilité climatique, c'est-à-dire une certaine chaleur, des précipitations ni trop ni trop peu, en sachant que la Méditerranée est évidemment, du point de vue climatique, quelque chose de très irrégulier. Les moyennes climatiques ont peu de sens en Méditerranée parce que chaque année peut être très très différente de la précédente, avec une très grande sécheresse ou au contraire des orages qui vont ravager les champs et les récoltes. Donc, l'Empire avait su trouver un équilibre en mettant un petit peu en connexion les différentes parties du bassin méditerranéen, notamment l'Égypte,
connexion, c'est-à-dire?
C'est-à-dire
par les voies maritimes.
Par les voies maritimes, essentiellement, parce que c'est ce qui est le plus facile à l'époque pour transporter des grandes quantités de produits, donc des tonnes et des tonnes de blé pour nourrir le million d'habitants de Rome, et à travers le fait que ces parties de la Méditerranée sont dirigées pour l'Empire, par les hauts dirigeants de l'Empire, et que l'Empire y prélève, au nom des impôts, des quantités assez considérables de céréales et d'argent pour nourrir à la fois son infrastructure et puis sa capitale.
La suite de l'histoire.
Alors qu'est-ce qui fragilise cet équilibre que vous venez de décrire ?
Alors, il y a des éléments internes qui fragilisent. On a parlé des guerres civiles, on a parlé des invasions. Mais aujourd'hui, on a les moyens de voir que l'équilibre climatique qui préside à la naissance de cet empire est très particulier. C'est ce qu'on appelle maintenant l'optimum climatique romain, avec des températures relativement élevées, moins qu'aujourd'hui, mais surtout une stabilité très grande, finalement, de ce climat, et un climat plus humide aussi qu'à l'habitude sur la Méditerranée.
Qui favorise les cultures.
Exactement. Et qui permet aussi de voir venir peut-être un peu plus facilement devant soi. Et cet équilibre qui s'est mis en place peut-être vers le deuxième siècle avant notre ère, c'est difficile à toujours à mettre un peu le curseur, semble-t-il, il trouve sa fin au milieu du deuxième siècle de notre ère. Pour quelle raison? Ça, c'est une question encore difficile à expliquer, qui appartient aux climatologues. Il semble-t-il, c'est des raisons qui sont liées à l'évolution générale de la situation climatique de la planète. Vous savez qu'on est dans ce qu'on appelle l'Holocène et il a une tendance à évoluer. Ce sont des évolutions de très très long terme et, semble-t-il, on est arrivé à la fin d'une de ces évolutions à ce moment-là.
Et alors ça se traduit par quoi concrètement ?
Alors ça se traduit justement par la fin des précipitations d'été, parce que, semble-t-il, il pleut en été sur le bassin méditerranéen assez régulièrement finalement au début de l'Empire. Donc une aridité qui grandit, une instabilité plus forte, donc plus de mauvaises années, et des éléments qui touchent l'Empire. Par exemple, beaucoup du blé romain est fourni par l'Égypte. Grâce à la crue du Nil, l'Égypte est un petit peu la réserve de blé, le grenier à blé de toute la Méditerranée, et elle est la manière qu'ont les Romains de compenser les difficultés de nourrir leur capitale. Or, on se rend compte qu'après 150, les crues favorables, on a des archives, des crues du Nil que les Romains tenaient soigneusement, eh bien les crues favorables sont beaucoup moins nombreuses et les crues défavorables, médiocres, sont beaucoup plus nombreuses. Donc là, Rome a perdu une réserve en quelque sorte, une capacité à faire face au choc. Et cette perte a été progressive, évidemment, c'est la récurrence d'années un peu plus mauvaises et la disparition de très bonnes années ou le fait qu'elles soient moins courantes qui petit à petit a érodé une des résistances de l'Empire.
Et les stocks ne suffisent pas ?
Eh bien, les stocks, ils suffisent un moment, mais petit à petit, il devient plus dur de les récupérer. Et face à des chocs, comme une épidémie, comme une invasion, comme une guerre civile, on n'arrive plus à récupérer. On a moins de marge de manœuvre, on a moins de richesses aussi, pour payer des fonctionnaires, pour payer des soldats. Donc on devient plus vulnérable.
Et l'Empire romain, il est quand même immense à son apogée. C'est vraiment tout le bassin méditerranéen, la Gaule, enfin ce qui correspond aujourd'hui à l'Espagne, l'Afrique du Nord. Enfin, il n'y a pas d'autres lieux qui peuvent compenser les pertes
le Nil, là ? On compense, c'est-à-dire cette perte du Nil, c'est un facteur sans doute important, mais ce n'est pas le seul. S'il avait été tout seul, on peut penser que l'Empire aurait répondu par d'autres moyens. Mais voilà, il est sur tous les fronts à la fois. On ne peut pas faire d'explication monocausale. Mais on peut pointer les endroits où il perd de la résilience, où il perd de la prospérité. On voit aussi que, effectivement, le climat plutôt chaud des deux premiers siècles devient beaucoup plus dur. Le troisième siècle est marqué par des très mauvaises années, par une baisse des températures. Et ces moments de dégradation climatique se retrouvent aussi au quatrième et au cinquième et au sixième, mais chacun avec des éléments un peu différents. C'est-à-dire qu'on a plusieurs petites inflexions climatiques, avec parfois quelques chocs un peu plus brutaux, qui font qu'il y a des moments de tension très forts et que ces moments de tension vont occasionner des pertes de résilience. On va perdre la capacité à faire face au prochain choc.
Thank you.
Est-ce que ça occasionne des famines, à proprement parler ?
Par moment, si. Mais ça reste exceptionnel. Mais clairement, à l'époque de Marc Aurèle, on a des années de famine durable et grave, qu'on connaît bien parce qu'on a un témoin exceptionnel, c'est le médecin Galien.
Dans tout l'Empire ?
Alors, dans tout l'Empire, non, mais dans de nombreuses parties de l'Empire, dans beaucoup plus de parties de l'Empire que d'habitude. Et ce sont des famines un peu plus durables que d'habitude. On a aussi des témoignages de famines nombreuses dans les années 380. Et là, alors, Kyle Harper pose bien les problèmes, il dit bien qu'il est toujours difficile de savoir si dans nos sources on a affaire à une famine ponctuelle ordinaire ou à un espèce de groupement de famines qui montre qu'on a un événement beaucoup plus extraordinaire qui va éroder réellement les capacités de récupération. Et puis, le choc final, ce sont entre les années 535 et 550, ce que maintenant les climatologues appellent le « Little Ice Age of Late Antiquity », hein, le petit âge glaciaire de la fin de l'Antiquité tardive, où là, on a un événement climatique qui se répartit en deux moments, 535 à peu près, puis 540. Ce sont deux éruptions volcaniques qui entraînent une baisse des températures à l'échelle du globe et qui occasionnent vraiment deux décennies de très très mauvaises années. Deux décennies absolument rigoureuses, peut-être les deux décennies les plus froides des 2000 dernières années.
Et donc tout ça fragilise l'Empire romain, d'Occident en particulier, et contribue à ce qui va aboutir à sa chute.
Oui, au sens où il y a aussi des changements climatiques que Kyle Harper met en évidence, qui touchent d'autres régions que l'Empire, mais qui ont des échos. Par exemple, les Huns, semble-t-il, se déplacent en direction de l'Empire romain parce que, chez eux, c'est la sécheresse dans les années 350. Donc ils vont chercher des pâturages un peu plus à l'ouest, et à l'ouest, il y a l'Empire.
Et donc ça occasionne des guerres ?
Des guerres, des invasions, et la guerre elle-même met le système politique de l'Empire à rude épreuve, il se divise. La légitimité de l'empereur, évidemment, est toujours fragile s'il n'arrive pas à emporter la victoire. Donc on voit comment les facteurs peuvent s'encourager l'un l'autre.
Ils se complètent en quelque sorte.
Ils se complètent, exactement.
Benoît Rossignol, qui dit famine, manque de nourriture, dit immanquablement maladie, voire épidémie. Est-ce que c'est ce qui se passe également pour l'Empire romain autour des 3e, 4e, 5e siècles après Jésus-Christ, qui donc se voit fragilisé encore une fois par des maladies?
Oui, pour les anciens, il y a un lien très fort entre la famine et l'épidémie. En grec, c'est presque le même mot. Les Grecs disent « limos kai loimos ». C'est des liens que les anciens ont fait très tôt. Alors, ces liens, on les observe, mais ils sont très compliqués. Aujourd'hui, on se rend compte que parfois, c'est l'épidémie qui entraîne la famine, parce que tout simplement, il n'y a plus assez de mains pour aller moissonner les champs, et que certaines épidémies semblent frapper aussi des gens en pleine santé et tout à fait prospères. La peste, semble-t-il, n'est pas forcément défavorable aux gens qui sont mal nourris. Donc, il y a des situations très difficiles à expliquer finement, mais clairement,
il y
a un lien entre les deux. Alors, ce lien est difficile à expliquer. Il n'est pas forcément tout le temps le même, mais il y a un lien et les anciens l'avaient constaté. Et on voit très clairement que des épisodes épidémiques graves constituent des chocs terribles pour l'Empire.
Et alors, quelles sont les sources qui nous permettent de parler de ces épidémies graves qui déciment une partie de la population ?
Alors, les sources, elles varient selon les épidémies. On va dire qu'il y a trois grands épisodes. L'épisode de la peste antonine sous Marc Aurèle au IIe siècle, la peste de Cyprien au IIIe siècle, et puis la peste de Justinien au VIe. Les sources sont d'abord des sources littéraires. Par exemple, pour la peste antonine, on a le médecin Galien, donc le plus grand médecin de l'Antiquité, qui peut observer la maladie, nous la décrire, ce qui nous permet d'imaginer avec pas mal de probabilité que c'est la variole. Pour la seconde, vers 250, eh bien, on a Cyprien, qui est un évêque chrétien en Afrique du Nord, qui est un témoin aussi, de bonne qualité. Et puis, au VIe siècle, on a d'autres écrivains, comme l'historien Procope.
Donc, vous parlez de peste et de variole.
Alors voilà, le mot « peste » dans l'Antiquité n'a pas le sens précis que nous avons pour lui aujourd'hui, qu'il la rapporte à un microbe bien précis, la bactérie Yersinia pestis. Donc, quand les anciens utilisent un mot comme l'ouès ou pestis ou loïmos, Ils décrivent en fait toute épidémie de grande ampleur, extrêmement mortelle. Et nous, effectivement, il nous faut retrouver le microbe derrière l'épidémie pour essayer de mieux la comprendre. Et c'est là où d'autres sources apparaissent, et notamment l'analyse donc
des
sépultures, des os et des dents, pour retrouver l'ADN microbien.
Et c'est ce qui a été fait donc?
Alors cela a été fait, mais uniquement pour la dernière des épidémies. Pour l'épidémie du 6e siècle, désormais, on est effectivement sûr qu'il s'agit bien de notre peste à nous, de Yersinia pestis. On peut séquencer le génome de la bactérie, donc regarder si elle est différente ou pas de la peste de notre époque, parce qu'elle est toujours là. Et on se rend compte justement qu'elle est un petit peu différente, mais que c'est bien la même famille, c'est bien la même bactérie.
Et elle est aussi létale?
Alors peut-être plus,
ouais.
ça reste difficile à juger.
Et elle est transmise essentiellement par la puce du rat?
Voilà, oui. C'est un système assez complexe et comprendre
l'épidémie... Qui est décrit dans le livre, de
voilà,
façon assez méthodique.
Oui, parce que si on ne comprend pas le système de transmission, on aura du mal à saisir comment et pourquoi la peste s'est diffusée et quels ont été son impact. Parce que nos sources, comme Procope, Galien ou Cyprien, évidemment, ne sont pas des statisticiens, ne sont pas des épidémiologues, n'ont pas notre regard et... ne répondent pas à toutes nos questions, c'était pas leur but. Donc retracer les mécanismes de l'épidémie, c'est extrêmement important pour essayer de se représenter l'impact qu'il a pu avoir.
Et donc le rat étant le principal facteur.
Alors le rat est le principal facteur effectivement de diffusion. C'est une question qui a longtemps été un petit peu controversée, mais maintenant on sait bien retrouver. Alors ça aussi, c'est pas forcément facile à faire, mais on sait retrouver les ossements de rats dans les fouilles archéologiques. Donc le lecteur trouvera une belle carte avec toutes les attestations de rats dans l'Empire romain.
Parce qu'il y avait aussi beaucoup de céréales, vous l'avez dit.
Et oui, voilà.
Et qu'il aime beaucoup ça.
Si on fait des greniers à céréales partout, on va faire un empire qui favorise les rats aussi. Et c'est les moments où le livre est d'une ironie absolument terrible, parce qu'on voit que la puissance romaine, en quelque sorte... installe des éléments qui vont lui coûter extrêmement cher plus tard.
Donc, il y a cette épidémie de peste. Vous avez parlé de la variole, plus tôt.
Alors, à l'époque de Marc Aurèle, semble-t-il, c'est la variole. Mais il nous manque, justement, actuellement, des confirmations qui seraient d'ordre scientifique. C'est uniquement sur la foi de la description de Galien. Donc, il y a toujours une certaine incertitude. Mais cette description, semble-t-il, correspond bien à ce que nous appelons la variole. Reste à savoir si... d'autres maladies ne peuvent pas donner des symptômes semblables, des maladies qui auraient pu disparaître. Et puis, est-ce que la variole de l'époque des Romains était la même que la nôtre? Seules des analyses génétiques pourraient le dire.
Il est également question dans le livre du paludisme, la malaria.
Oui, c'est-à-dire que les Romains ne meurent pas qu'à l'occasion des grandes épidémies. La situation sanitaire de l'Empire, si nous étions des touristes projetés dans cet Empire romain, nous la trouverions absolument horrible. Il n'y a pas d'hygiène. Malgré la présence des bains et des latrines, on n'a aucune conscience qu'il faut se laver les mains ou qu'il faut faire attention à la conservation des aliments.
Ou aux moustiques.
Et aux moustiques. Alors, on saisit bien qu'il y a parfois un lien entre les marées et certaines maladies, entre certaines fièvres et certaines conditions écologiques. Mais on n'a pas vraiment les moyens de lutter contre. Et donc, les populations qui sont soumises aux chocs épidémiques brutaux dont on vient de parler... sont dans une situation sanitaire et épidémiologique qui épuise les résistances. On pourrait aussi parler de la tuberculose, par exemple.
La suite de l'histoire, Véronique Elzieux.
Alors, ce qui est passionnant, c'est l'ironie que vous avez soulignée il y a un instant. C'est-à-dire que vous parlez de l'eau, des aqueducs, des bains, devant lesquels on s'extasie, parce que c'est vrai que ça fait appel à un savoir-faire, à des techniques qui nous paraissent incroyables pour l'époque, et qui, dans le même temps, favorisent les bactéries, leur circulation et leur propagation. Les bains, par exemple, sont de véritables bouillons de culture.
Eh bien oui, parce qu'on n'a pas de chlore. Imaginez une piscine sans chlore. Très rapidement, les choses tournent mal. Alors, on peut changer l'eau, mais cela dépend de l'entretien de l'aqueduc, cela dépend du moment où le tenancier du bain peut le faire. Ce sont des eaux chaudes, en plus. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui, derrière une apparence extrêmement brillante, posent des problèmes. Une des autres ironies, c'est qu'évidemment, l'Empire, on l'a dit précédemment, a connecté toutes les régions du monde méditerranéen et donc favorise eh bien la circulation des hommes, des rats, mais aussi des microbes, et cela à longue distance. Et quand on va chercher de la soie jusqu'en Chine, on peut permettre aussi éventuellement à des virus, des bactéries de circuler. Et quand on permet aux armées de traverser l'Empire, eh bien les microbes de ces armées le traversent aussi.
C'est-à-dire que ces points forts sont en même temps ces points faibles.
Oui, des points faibles qu'évidemment aucun Romain ne pouvait concevoir. Ils auraient été bien étonnés de l'apprendre, mais du point de vue d'une analyse systémique, on se rend compte que les vulnérabilités et les défis qu'il a eu à affronter naissent de son organisation même, en quelque sorte.
Notamment, les cités ne sont pas entourées de remparts, ce sont des villes ouvertes. N'importe qui peut entrer et sortir, par exemple, dans Rome. Il n'y a pas de lieu de quarantaine.
Alors oui, parce que la ville est le lieu de la douceur, de la civilisation. La ville romaine est l'inverse de la violence. On n'a pas le droit d'être en armes dans Rome, normalement. Alors les soldats de l'empereur le peuvent, mais il y a l'idée que cette ville est un lieu de l'ordre, du droit. Donc les villes sont ouvertes. L'Empire a une armée puissante aux frontières, et tant que cette armée fonctionne, le fait est qu'il n'y a pas de menace de grande ampleur. Et puis les villes sont ouvertes aussi parce que comme ça, elles ne peuvent pas résister à l'empereur. C'est une protection en cas de guerre civile. Et l'autre idée, c'est qu'évidemment, on ne pense pas à la contagion. On est dans un monde d'avant Pasteur, d'avant Robert Koch, d'avant ces grands microbiologistes du 19e siècle. Donc la maladie est au départ toujours quelque chose d'individuel. C'est une perturbation de votre équilibre personnel, de vos humeurs. Donc on n'a pas idée qu'elle puisse facilement se transmettre d'une constitution à une autre, d'un individu à un autre. Et c'est ce qui inquiète dans les épidémies, parce qu'on constate bien qu'elle se transmet, et c'est bien le signe que, en quelque sorte, les dieux doivent être en colère.
Est-ce que ça a un impact direct sur l'économie de l'Empire ?
Oui, oui, oui. Surtout pour les grandes épidémies, on le constate nettement pour, évidemment, la peste de Justinien au VIe siècle. On a un impact, un effondrement des populations et donc de toute la richesse globale. Mais ça se voit aussi assez nettement pour la peste antonine à l'époque de Marc Aurèle, vers 165. Les productions de métal dans l'Empire, les quantités de monnaie, les constructions de monuments chutent. Certains documents disparaissent complètement. La capacité économique de l'Empire est mise à l'épreuve. Alors, il y a une récupération après qui se fait, il y a une résilience. On voit qu'on retrouve des niveaux, de la même manière qu'on refait des enfants et qu'on comble petit à petit les morts. Mais les réserves ont été épuisées à chaque choc. Et le choc suivant, évidemment, va entamer un peu plus.
Dans cette période que nous évoquons avec vous, Benoît Rossignol, et qui porte donc sur ces années où l'Empire romain se voit affaibli au point de finalement s'effondrer, un élément important apparaît. C'est l'émergence du christianisme. Alors, est-ce que le christianisme contribue à l'effondrement de l'Empire romain, ou est-ce qu'on ne peut pas envisager les choses de ce point de vue-là, enfin, sous cet angle-là? Qu'est-ce qu'on peut dire de ça?
Alors, cette idée d'une contribution du christianisme à la fin de l'Empire, c'était un petit peu, en caricaturant, la grande idée de Gibbon, l'historien anglais, qui, le premier, a donné une grande synthèse un petit peu moderne et qui en même temps invente un peu l'histoire comme on l'a fait encore un petit peu aujourd'hui, au XVIIIe siècle. C'est dans la lignée des Lumières, de l'encyclopédie, d'un esprit un petit peu voltairien. Je dirais pas les choses de la même manière aujourd'hui, je pense pas qu'on puisse dire que le christianisme entraîne la chute de l'Empire.
Pourtant c'est un événement essentiel.
C'est un événement essentiel, important, et je dirais peut-être, mais c'est un avis personnel, que le christianisme fait que la disparition de l'Empire est peut-être vue comme moins inquiétante. C'est ce que dit en tout cas saint Augustin.
Pourquoi ?
Il dit que, eh bien, c'est pas l'Empire qui compte. Ce qui compte, c'est le salut des âmes.
Le royaume
et
de
que,
Dieu.
Voilà, exactement, la cité céleste. Des chutes d'empire, des chutes de royaumes, saint Augustin, il y en a toujours eu. Alors celle-ci, elle nous touche particulièrement parce que nous sommes romains. Il écrit à l'époque du sac de Rome en 410. Mais il dit bien que pour lui, ce n'est pas ce qui compte. Et effectivement, l'unité politique disparaît, mais un autre modèle d'unité est apparu, l'unité religieuse, une unité construite avec une église, avec l'adhésion à une foi, alors pas partagée, parce qu'il y a des discussions, il y a des hérésies, mais il y a peut-être aussi un nouveau modèle d'unité qui est apparu. Alors tout ça, évidemment, ça reste très spéculatif, mais il est certain que c'est un élément fondamental de la transformation du monde antique que cette conversion de l'Empire et ce passage à un univers religieux très différent.
Mais comment les chrétiens, eux, voient-ils les événements que vous avez évoqués jusqu'à présent, notamment ces bouleversements climatiques, ces épidémies qui frappent les populations de l'Empire? Est-ce qu'ils les interprètent?
Alors, l'interprétation, elle varie selon les époques. Je dirais que les chrétiens de l'époque de Marc Aurèle n'ont pas tout à fait les mêmes positions que ceux du IIIe siècle ou que ceux de l'époque de Justinien. Et tous les chrétiens n'ont pas non plus la même interprétation. Mais Kyle Harper met en évidence quand même le fait que, justement, un certain mode de pensée un petit peu apocalyptique, l'idée que il faut accepter que la fin des temps puisse être proche, a pu résonner avec des événements particulièrement graves. Et qu'en un sens, la peste de Cyprien, l'arrivée de la peste en 250, a pu donner l'impression à des gens comme Cyprien qu'ils étaient effectivement dans le droit chemin et que la puissance divine n'était pas avec l'Empire.
Est-ce que ces sortes de fléaux, finalement, qui frappent l'Empire, si on prend les choses dans le sens inverse, contribuent à renforcer les communautés chrétiennes naissantes, les toutes premières?
Alors ça, c'est une question difficile. Harper la soulève. Alors il faut être très prudent parce qu'on est évidemment dans des éléments où il est très difficile de trouver des liens, des causalités. Il fait remarquer une chose qu'on sait finalement depuis assez peu de temps, un peu plus clairement, c'est que le christianisme ne s'est pas développé d'une manière linéaire et régulière. C'est-à-dire que jusque dans les années 200, on voit très très peu de chrétiens, ils sont une petite minorité, et un petit peu partout dans l'Empire, mais qui restent vraiment très petites. Par contre, dans les années 300, ils sont beaucoup beaucoup plus visibles. On a l'impression qu'il y a une accélération qui se fait dans la seconde moitié du IIIe siècle.
Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux, du point de vue de l'histoire de l'Empire romain?
Il y a eu des persécutions un peu généralisées, à l'époque de Dèce, et puis une période de paix assez longue pour l'Empire, ce qu'on appelle la petite paix de l'Église, entre l'Empire et les chrétiens, justement. On a plusieurs décennies sans persécution. Et on a aussi, justement, cette grande épidémie des années 250. Et l'idée d'Harper, c'est que finalement, certains éléments des communautés chrétiennes, notamment la capacité d'avoir une certaine solidarité, de prendre soin, ont pu jouer un rôle, hein, ne serait-ce que parce que si on s'occupe des malades et des pauvres et qu'on hydrate tout simplement un malade, on peut changer ses chances de guérir. Alors, évidemment, il prétend pas que c'est ça qui explique que les chrétiens auraient plus survécu, par exemple. C'est évidemment beaucoup plus complexe que ça, mais les éléments spécifiques de la communauté chrétienne ont pu se trouver favorisés dans cette seconde moitié du IIIe siècle, en même temps que le christianisme s'est trouvé exposé aux yeux de tous par une persécution qui est devenue plus générale à l'époque de l'empereur Dèce, vers 250.
Dans le livre, Kyle Harper prend une image assez frappante. Il compare cet empire en train de sombrer et ses habitants, aux passagers du Titanic, qui peut-être trinquaient au champagne quelques heures avant que le navire ne coule.
Oui, on a par certains moments, effectivement, l'impression d'une certaine inconscience. Je pense que le moment où on peut le sentir le plus, c'est peut-être les années 400, où effectivement on voit l'empereur Honorius et la cour qui sont à Ravenne, qui ne semble pas réagir à la hauteur des défis, c'est-à-dire les Goths d'Alaric qui pillent Rome pour punir l'empereur de n'avoir pas nommé Alaric un poste important, et les Vandales, les Suèves, les Alains qui envahissent les Gaules, l'Espagne et puis l'Afrique. On a l'impression que, effectivement, le milieu de la cour autour de l'empereur ne réalise pas l'impact de ces événements.
Est-ce qu'ils avaient les moyens vraiment
C'est-à-dire, est-ce qu'ils avaient non seulement les moyens de réaliser, mais aussi de s'y opposer? C'est difficile à dire. Enfin, je pense qu'entre les années 400 et 450, il y a eu beaucoup d'occasions ratées pour l'Empire. L'empereur d'Occident et l'empereur d'Orient se brouillent l'un et l'autre, sont aussi des éléments d'inconscience face aux menaces, qui ont servi plus l'Orient que l'Occident, parce qu'il a pu un petit peu
résister.
Mais effectivement, on a bien l'impression que une partie des élites de l'Empire n'ont pas saisi les occasions, les moments, et que certains moments déterminants, une fois qu'ils sont passés, ils n'étaient plus récupérables.
Est-ce qu'on peut parler de géopolitique à cette période-là ?
Oui, au sens où, effectivement, il y a tout un ensemble d'acteurs et qui sont dépendants bien de leurs forces et aussi des territoires qu'ils peuvent occuper. Et quand on est dans les années 400, certaines données de la maîtrise des frontières, de l'installation des peuples barbares sur l'Empire, font que les défis changent, et notamment l'incapacité de cette armée au 5e siècle à reprendre la main, faire partir les envahisseurs vandales, par exemple, de leur reprendre l'Afrique du Nord une fois qu'ils y sont installés, montre bien que la maîtrise justement de la géopolitique échappe désormais aux forces de l'Empire.
Donc c'est une géopolitique qui ne se vit pas dans les bureaux feutrés de Bruxelles, mais sur les champs de bataille, là.
Oui, en grande partie sur les champs de bataille et puis sur la diplomatie aussi.
Il y a quand même de la diplomatie ?
Il y a beaucoup de diplomatie, oui. Et il y a même un empire inventif, au sens où il essaye de trouver des éléments, c'est-à-dire que il faut pas voir les barbares uniquement comme des menaces. Il y a beaucoup de barbares qui sont au service de l'empire, qui sont dans l'armée impériale. Et quand on regarde de près certains éléments, comme l'installation des Visigoths en Aquitaine, ce sont aussi des alliances entre des chefs barbares, des armées et l'empereur.
Qui tiennent un certain temps.
Qui tiennent parfois très bien, mais qui sont emportés par l'effondrement progressif qui fait qu'à un certain moment, eh bien, ces chefs barbares se disent qu'ils n'ont plus besoin de l'empereur et qu'ils peuvent assumer tout seuls la souveraineté.
C'est le cas de celui que vous évoquiez au tout début,
voilà,
Odoacre.
Odoacre, exactement, qui considère que finalement, on peut renvoyer les insignes impériaux à Constantinople et que sur place, mais les Vandales l'avaient fait bien avant, en décidant de se tailler leur royaume à eux sur l'Afrique du Nord, qui à l'époque est peut-être la partie la plus prospère. Et puis, bien, on a les Visigoths, les Burgondes, les Francs aussi, dans le nord de la France. Ce sont des gens, chacun un peu à sa manière, qui vont petit à petit s'autonomiser par rapport à ce pouvoir romain.
Qui, pour qu'on en arrive là, est déjà très très largement fragilisé, quoi.
Oui, semble-t-il, la rupture apparaît à la fin du IVe siècle. Il y a une grande défaite romaine face aux Goths en 378 à Andrinople, qui semble-t-il a désorganisé fortement l'armée romaine. Et on s'appuie donc sur des armées qu'on confie à des chefs qui sont un peu des condottières et qui peuvent s'appuyer sur des peuples barbares, mais qui peuvent aussi décider de jouer leur propre jeu.
Tout ça sur fond, donc, on l'a dit, de famine par moment, en tout cas de mauvaise culture, ou d'épidémie.
Alors, ce fond n'est pas forcément concomitant. Les problèmes militaires du 5e siècle arrivent avec des moments où, effectivement, le climat peut être parfois rude, mais on voit que quand Justinien, par exemple, arrive à remettre en place une reconquête militaire de l'Italie et de l'Afrique du Nord, là, la dégradation climatique et puis l'arrivée de la peste limitent complètement ses capacités à reconstruire un empire.
Au fond, Benoît Rossignol, quand on parle de la chute de l'Empire romain d'Occident, qu'est-ce qu'il faut imaginer ? Est-ce que ça veut dire que Rome, du jour au lendemain, se retrouve ravagée, livrée au pillage, à feu et à sang ? Ou bien les choses ne se font pas du tout de cette façon-là ?
Alors, les choses sont... Il y a un déclin, évidemment, puisque quand on est à la fin du VIe siècle, Rome n'a plus que quelques milliers d'habitants, alors qu'elle en comptait, on l'a dit précédemment, 1 million au début de l'Empire. Mais ce n'est pas une dégradation continue. Il y a des épisodes violents, par exemple en 410, le sac de Rome par les troupes d'Alaric. Mais il ne faut pas non plus imaginer que cette violence était sans limite. Alaric n'incendie pas la ville. Alaric avait négocié les conditions du sac. Notamment, il y avait toute une zone d'asile autour du Vatican. Et le sac de Rome en 410 est plus une manière pour Alaric de récupérer l'argent que l'empereur n'a pas voulu lui donner pour solder ses troupes et d'infliger une punition symbolique à cet empereur qui ne veut pas confier à Alaric les responsabilités qu'Alaric aimerait. Mais évidemment, ça reste un sac, c'est-à-dire qu'on brutalise, on pille, on doit tuer pas mal quand même. Et symboliquement, c'est effectivement quelque chose qui frappe les Romains parce que Rome n'avait jamais été prise par des gens que Rome considérait comme des étrangers depuis les Gaulois en 390 avant notre ère.
Il y a des destructions ?
Alors, il y a eu des destructions, mais finalement assez peu en 410. Les destructions, elles viennent un peu plus tard. Il y a d'autres épisodes un peu plus terribles. Il y a un sac par les Vandales, par exemple, au milieu du 5e siècle. Mais les destructions sont plus liées à des abandons progressive. C'est-à-dire que la ville est tout simplement taillée beaucoup trop gros pour la population qui désormais peut y vivre à partir du moment, par exemple, où on ne garantit plus que le blé va arriver. Et puis la ville se modifie aussi, on l'a dit, avec la christianisation. Il faut construire des églises. Donc il ne faut pas imaginer que Rome ne fait que se détruire. Entre le 4e siècle et le 6e siècle, on construit Saint-Pierre de Rome au Vatican, on construit les églises du Latran, on construit énormément d'églises. Donc il y a des transformations. Mais il est certain que petit à petit, il y a énormément de bâtiments qui sont abandonnés et qui parfois restent jusqu'à l'époque de la Renaissance, voire jusqu'à aujourd'hui.
Alors ça, est-ce que c'est vrai dans le reste de l'Empire romain ?
Alors c'est extrêmement variable. L'Empire est très grand et finalement avec l'éclatement de l'Empire, avec l'effondrement de la structure politique qui tenait tous ces morceaux ensemble, les destins vont se séparer. Il y a des régions qui sont soumises à une conflictualité très forte. Il y a des régions qui vont connaître des périodes de paix assez importantes. L'Afrique du Nord est relativement préservée jusqu'à l'arrivée des Vandales. Les régions du nord de la Gaule, entre la Belgique, la France et l'Allemagne actuelle, évidemment, sont beaucoup plus exposées à des conflits. Donc c'est très variable. Ce qui sans doute tue le plus de monde, c'est effectivement la peste à l'époque de Justinien, qui vide quand même une grande partie des campagnes de manière assez générale. Ce qui ne veut pas dire qu'ensuite, on vit mal. Ça, ce sont des choses difficiles à mesurer, à évaluer. D'autant plus que comme il y a moins de monde, on a moins de sources. Donc il est plus difficile de savoir ce qui se passe. Mais bien tout simplement, une fois que l'épidémie terrible est passée, on se retrouve avec moins de bouches à nourrir. Donc pour les gens au quotidien, l'année 476 n'a pas forcément été vue comme une transformation terrible et pour tout le monde. Il y a des gens qui ne sont peut-être pas rendus compte que l'Empire avait disparu, c'est même fort probable. Et le changement pour la vie des gens ordinaires, il ne fonctionne pas forcément sur le même rythme que le changement politique.
La suite de l'histoire.
Pourtant, c'est la date qui est traditionnellement retenue comme étant celle où s'achève l'Antiquité et où commence le Moyen-Âge.
Oui,
donc c'est quand même une articulation absolument fondamentale.
C'est l'articulation fondamentale, mais justement, c'est une articulation qui est discutée du point de vue des historiens, c'est-à-dire que en fait, depuis le milieu du XXe siècle, cette période de transition entre l'Antiquité et le Moyen-Âge est de plus en plus regardée comme une période qui a son propre intérêt, qui aurait sa propre chronologie. Et justement, la transition, elle prend peut-être un peu plus de temps que 476. C'est un enjeu de débat entre les historiens et pas forcément une bonne réponse. Ça dépend de quel point de vue on se situe pour situer les transitions de manière plus ou moins longue et parfois on peut pousser un peu plus tard que 476, justement, Kyle Harper montre bien comment les événements du 6e siècle, le petit âge glaciaire de 530-550, donc c'est exagéré, le petit âge glaciaire, mais ce trouble climatique et la peste sont un moment de rupture, sans doute beaucoup plus fort que le fait de renvoyer des insignes impériaux de Ravenne jusqu'à Constantinople.
Donc on a besoin quand même de signes, de symboles forts, et c'est pour ça peut-être qu'on retient cet événement politique plus que les ravages de la peste et,
voilà,
et la mauvaise récolte, quoi.
Et puis, les historiens de l'Antiquité écrivent d'abord du point de vue du politique et de Rome. C'est toujours arbitraire de dire à quel moment une période commence, à quel moment une autre période s'arrête. Et on voit bien qu'à un même moment de l'histoire, il y a des éléments du passé qui continuent à vivre. Quand on est à l'époque du Justinien, il y a encore des païens. Même si l'Empire est censé être complètement chrétien, on trouve des gens qui n'adhèrent pas forcément au monothéisme. Donc c'est toujours difficile de dire à tel moment on change d'époque. Et d'autant plus dans ces moments où effectivement une grande partie de la population est plus préoccupée de savoir ce qu'elle mangera la saison prochaine que de savoir qui finalement va prélever les impôts, est-ce que c'est un empereur ou un roi barbare.
Tout le monde s'accorde quand même à dire qu'il se passe là une période charnière.
Oui, on voit bien qu'effectivement, des éléments fondamentaux sont transformés. Que la manière de répartir la souveraineté, la manière d'adhérer ou pas à un certain nombre de croyances est complètement différent. C'est ce monde de l'Antiquité tardive dont parle un historien qui s'appelle Peter Brown, qui a écrit énormément, et sur lequel aujourd'hui il y a beaucoup de travaux. Finalement, Kyle Harper apporte sa contribution justement à cette réflexion actuelle sur cette transition de l'Antiquité au Moyen-Âge, en pointant un peu du doigt des facteurs qui n'avaient pas forcément été beaucoup recherchés auparavant, le climat, les maladies, et en montrant comment ils ont joué aussi leur place.
Constantinople, et donc le siège de l'Empire romain d'Orient, lui, survit.
Constantinople chute seulement en 1453, quand elle devient Istanbul. Mais effectivement, on voit bien que l'Empire byzantin n'est plus un empire antique, à partir d'un moment un peu plus tardif, dans le 7e siècle, qu'on passe dans un monde un petit peu différent, mais qui reste un empire quand même romain, mais à sa manière, un empire romain grec, un empire romain médiéval. Mais Constantinople a son propre destin, bien différent des royaumes barbares d'Occident.
En tout cas, ce processus qu'on a évoqué au cours de ces entretiens, Benoît Rossignol, est très intéressant dans la mesure où il nous oblige à revoir et à prendre bien en compte le fait que dans la plupart de ce type de phénomène, les choses sont multifactorielles. Rarement, en tout cas, un événement ou un élément explique ce type d'événement historique.
Oui, les choses sont rarement simples en histoire et si on pense avoir une clé qui ouvre toutes les portes, en général, elles
fonctionnent pas si
bien que ça. Voilà, il faut s'en méfier. Et c'est ce qui fait l'intérêt aussi de l'histoire. Et c'est pour cela aussi que apporter un regard neuf sur des périodes historiques passées, ça nous oblige aussi à réfléchir un peu à notre propre zone d'ombre actuelle, parce qu'on est toujours tenté de voir toute la réalité sous le seul angle qui nous avantage. C'est ce qui me paraît intéressant dans le livre de Kyle Harper, c'est cette capacité à montrer que les facteurs peuvent être plus nombreux que ce qu'on a cru et que des facteurs qu'on aurait tendance à laisser hors de l'histoire ont aussi joué leur rôle.
Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui voient un parallèle possible entre cette période que nous venons de décrire et celle que nous vivons aujourd'hui ? Une sorte de période postmoderne qui serait elle aussi en pleine décadence et en butte à des oppositions, à des agressions, disons, qui pourraient la conduire à sa perte ?
Alors, moi, en tant qu'historien professionnel, je suis plus porté à voir les différences entre les périodes. Parce que justement, je cherche plus ce qui est propre aux Romains que ce qui les rapproche de nous. Parce que si on se projette dans le passé, on a plus de chances de se tromper sur celui-là. Donc, il y a des différences. Après, je pense que c'est très dur de trouver des leçons dans la chute de l'Empire romain pour notre propre monde. Parce qu'on n'est plus du tout dans le même monde. Nous sommes dans un monde industrialisé, un monde où la technologie nous donne des moyens extrêmement différents. Je dirais qu'on n'est plus dans le même univers de pensée non plus. Après, je ne dis pas qu'il faut pas les faire, je dis pas qu'il faut pas aussi, parce que l'esprit humain fonctionne comme ça, on fonctionne par analogie, par comparaison, et que ça peut avoir au moins le mérite de nous forcer à réfléchir sur notre propre époque. Mais finalement, c'est pas le discours de l'historien. L'historien, il est là pour dire un petit peu ce qu'on peut comprendre de ce qui s'est passé, les comparaisons, les leçons ou les intérêts qu'on peut en tirer, c'est un peu plus personnel. Mais je pense que un des points que pointe Kyle Harper, le fait qu'une société a du mal à mesurer son rapport à son propre milieu écologique, que ce soit le climat, que ce soit les microbes, ça peut être une question importante pour nous, aujourd'hui, aussi à prendre en compte.
Un très grand merci, Benoît Rossignol, d'être venu nous parler de la chute de l'Empire romain, vu sous l'angle, donc, vous l'avez dit, de la question climatique et des épidémies essentiellement. Vous avez préfacé le livre de cet historien américain qui s'appelle Kyle Harper et qui s'intitule « Comment l'Empire romain s'est effondré ». C'est un livre qui est paru aux éditions de La Découverte. Et je rappelle que vous êtes donc maître de conférences en histoire, civilisation, archéologie et art des mondes anciens et médiévaux. Vous travaillez à l'Université Paris 1, Panthéon, Sorbonne. Encore un très grand merci à vous.
Merci à vous.
Et merci à Pierre Samanos et à Antoine Picot qui était à la technique. Okay.